Ça va?
Ginès rit à son tour, d'abord un rire gêné.
Bêlé.
Toutes deux se regardent, puis bêlent un petit coup.
C'est du lourd, hein, c'est jurassien.
Vertigo, le théâtre.
Antoinette Richner, Pascal Gudel, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Arlette, c'est vous, Antoinette, ça finit en ette, et pour vous citer, oui, ce sont souvent des personnes pas toutes jeunes qui partagent mon prénom.
En effet, je me suis amusée à créer quelques petites correspondances, telles que le A du début du nom d'Arlette et le et qui finit comme Antoinette. Je m'attendais un petit peu à cette question, donc je vous ai amené une petite citation de François Weyrogan.
Je déteste qu'on me voit venir. Très insultant.
Commence bien. Mais vous n'êtes pas la seule à m'avoir posé la question.
C'est encore pire. Allez-y.
Un jour, j'écrirai un roman dans lequel il n'y aurait pas d'être humain, ou bien je pourrais raconter la vie d'une pierre. Des lecteurs, des gens que je n'ai jamais vus, à qui je n'ai jamais parlé, viendraient me dire « La pierre, c'est vous, n'est-ce pas ?» Voilà, c'est un extrait qui m'a fait rire parce qu'en tant qu'autrice, je suis très régulièrement confrontée à cette question « Est-ce que c'est vous ?» Et puis, bah, d'un côté, oui, dans pratiquement toutes mes œuvres, il y a toujours un élément personnel que j'intègre à des degrés divers. En même temps, c'est toujours des matériaux composites, donc il y a aussi des éléments qui sont complètement inventés, observés dans d'autres vies que la mienne, ou qui viennent de la banque de films et de livres qui m'ont traversé. Donc, c'est un problème pour moi quand quelqu'un reconnaissant un élément personnel, a fortiori quelqu'un qui me connaît, en déduit que l'ensemble me représente. Donc, je réfute tout à fait qu'Arlette, ce soit moi.
Réfutez, petite pierre. Pascal Gudel, comment avez-vous reçu ce texte la première fois que vous l'avez lu ?
Il m'a beaucoup émue. Je me suis pas mal reconnue aussi dans ce personnage. C'est une sorte de voyage familial puisqu'elle rencontre une sœur qui est censée, comme vous le disiez en introduction, être décédée. Et puis elle a des choses à régler avec son père. Voilà, c'est des choses que tout un chacun peut connaître dans sa vie. Donc oui, très touchée.
Mise en scène qui s'est imposée tout de suite à votre esprit ?
Non, c'est une commande, à vrai dire. Donc, c'est le directeur du théâtre de poche, Mathieu Berthollet, qui m'a fait cette proposition. Il se trouve que c'est ma toute première mise en scène professionnelle. Donc, j'ai pris du temps avant de prendre la décision d'accepter ce mandat. Surtout que les répétitions se passent de manière expresse. On a 12 jours à disposition. C'est d'autant plus difficile. Enfin, c'est-à-dire difficile. On travaille un petit peu différemment. Tout doit aller plus rapidement, pas le temps de tergiverser, une sorte de geste finalement. Voilà.
Sloop, c'est le principe.
Une embarcation légère et rapide.
C'est ça, une embarcation légère et rapide. C'est ça le théâtre pour vous ?
Alors moi, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas participer directement à la production. J'ai travaillé autrefois comme technicienne de spectacle et j'étais déjà dans l'ombre, comme on dit. Et j'aime beaucoup le métier d'autrice aussi parce que je reste dans l'ombre. Donc moi, je n'aimerais pas du tout être interprète et j'aimerais encore moins
avoir 12 jours
diriger, des diriger des interprètes en 12 jours.
En tout cas, ce qui est magnifique là, c'est de pouvoir travailler autour d'un texte, sur un texte qui a une autrice vivante et puis de pouvoir faire un petit Skype avec elle si on a une question.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait. Et bon, voilà, on l'a fait très peu au tout début du projet.
Quel genre de questions vous...
La question, par exemple, il y a un personnage qui accompagne toute l'histoire, c'est le récit, une sorte de narrateur qui aide le spectateur à entrer dans cette histoire, qui fait le lien, on va dire, entre la tête d'Arlette et le spectateur. Et puis, ce récit-là, j'avais l'intuition qu'il fallait le dire à haute voix, mais dans la première version que j'avais lue, c'était encore une étape d'écriture, donc c'était de la didascalie. Et il se trouve que voilà, j'ai appris en discutant avec Antoinette que ce récit était devenu un vrai personnage. Et je trouve ça très fort. Dans la version mise en scène maintenant, comme j'ai que 4 comédiens à disposition
pour 13 personnages.
Qui incarnent, voilà, 13 personnages.
Elle fait de la magie, Pascal.
Voilà. Non, c'est ton texte qui est magique. Très vite, ça a imposé l'idée de dispatcher la voix du récit entre 3 comédiens. La 4e comédienne jouant le rôle d'Arlette, c'était important pour que les spectateurs puissent s'identifier à cette figure-là, qu'elle soit interprétée par une seule personne.
Qu'est-ce que ça fait, Antoinette Richner, de voir sa pièce ? Parce qu'on joue beaucoup les auteurs morts ou lointains, de pouvoir une première voir...
Oui, effectivement, en tant qu'auteur contemporain de théâtre, c'est assez rare, c'est trop rare de voir sa pièce incarnée. Et c'est à la fois une petite violence, je trouve, quand on découvre une répétition ou une première, parce que très longtemps, on a été en relation avec des mots sur un écran et tout à coup, on est en relation avec des personnes vivantes qui sont là sur scène, qui se sont appropriées cette matière. Donc, il faut accepter la transposition. Et puis en même temps, c'est une immense joie parce qu'il y a plein de facettes insoupçonnées par l'auteur lui-même qui sont révélées, qui apparaissent.
Tu penses, je ne sais pas, on en avait parlé, peut-être que tu penses à cette scène de sexe où Arlette retrouve l'amant qu'elle avait à 23 ans. Enfin, c'est un souvenir de ce moment-là. C'est d'ailleurs le seul flashback de toute la pièce. Et... Là, tu avais peut-être pas imaginé, on l'a traité de manière très humoristique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a pu te surprendre.
Je n'avais pas vraiment imaginé la réalisation de la scène, mais j'étais un peu inquiète. Je suis un peu inquiète sur toute la pièce, mais particulièrement sur cette scène, parce que c'est vrai qu'elle est très directement érotique, avec des mots très, très crus. Et puis, c'est vrai qu'elle a... Et là, je pense à un potentiel comique, mais en même temps, il n'y a pas que de la dérision. Il y a aussi quelque chose d'assez... d'assez sérieux, quoi, dans cet acte sexuel. Et puis, je ne savais pas trop ce qui allait en ressortir au théâtre. Finalement, je trouve que là, ils ont vraiment su, et toi et toute l'équipe, créer quelque chose où on est dans le rire. Enfin, toutes les représentations auxquelles j'ai assisté, le public était dans le rire. Et je pense que ça permet de passer à travers cette scène de chair d'une manière très, ouais, très rigolote, quoi.
C'est vrai, tout à l'heure, je faisais allusion aux heures de TGV, aux 4 heures qui distancient Paris de Lausanne, et en disant on peut faire une structure de pièces de théâtre en 4 heures. C'était votre cas, Antoinette Richner, lorsque en mars 2015, vous êtes invitée à la librairie francophone à France Inter auprès d'Emmanuel Kérad, ben dans le TGV retour, alors que la plupart des gens regardent des séries débiles ou vont s'oublier au bar. Suivez mon regard. vous écrivez une pièce de théâtre.
Ben oui, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce qu'effectivement, Arlette, tout a commencé à la radio. Et j'étais invitée, et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais dès le moment où je me suis approchée des bâtiments de France Inter, j'ai senti que ça allait pas le faire en fait. J'étais super mal, peut-être un espèce de bad trip, un peu complexe d'infériorité de l'autrice romande qui arrive à Paris là.
Une émission et avec Amélie Nothomb.
Ouais, c'était le contexte où, je sais pas, c'est moi-même peut-être qui me suis fabriqué ça, mais j'avais l'impression d'être toute petite et... Au moment d'annoncer mon nom à la réception, je me sentais insignifiante. Et quand je suis arrivée enfin en haut de l'ascenseur, j'avais l'impression de mesurer 1m20, quoi. Et puis, et tout le long de l'émission, je me suis dit, mais t'assures pas, c'est pas ça, t'es à côté. Je sais pas, j'étais très fâchée contre moi-même, en fait, en partant de là. Et je pense que ça a à voir avec ça, Arlette, c'est aussi la mission qu'on se donne, les attentes qu'on entretient envers soi-même, les attentes dont on pense que les autres, nous charge, et puis finalement le sentiment de ne jamais y arriver ou d'être à côté, ou c'est aussi un moteur très important dans la pièce. Et c'est vrai que j'ai écrit, alors non pas toute la pièce, mais toute la structure, scène après scène, voilà, là elle va rencontrer tel et tel, il va se passer ça. C'est quelque chose de rare pour moi, normalement j'ai pas de structure prédéfinie, mais là ça s'est imposé, notamment aussi en sachant que j'allais faire référence un petit peu à la structure d'un texte que j'aime beaucoup d'Antonio Tabucchi, qui s'appelle Requiem. Voilà, c'est une série aussi de... Bon, il y a le côté onirique, on en reparlera peut-être, mais déjà, rien que la structure...
La rencontre entre mort et vivant.
Entre mort et vivant. Et puis la succession de tête à tête, je trouvais que c'était une structure super simple, mais qui marchait à fond, qui m'avait émue. Et au moment où je rentrais dans ce TGV un peu enragée, enfin... C'est peut-être un geste courant, ça, je pense, de création, de vouloir réparer quelque chose qui s'est mal passé dans la vie. Donc, j'étais complètement là-dedans et je me suis dit, bon, ça sera une sorte de... Ce sera mon requiem, quoi.
Quand vous parlez d'Antonio Tabucchi, dans Requiem, il écrit, alors qu'il est italien, ce texte en portugais. Il écrit en portugais parce que pour lui, c'est la langue de l'affection et de la réflexion. Votre langue, à vous, c'est le neuchâtelois. Il y a de l'accent dans cette pièce de théâtre. Est-ce que ça a un lien aussi
Oui, alors, donc, comme la structure est illogique, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas l'analyse rationnelle. Justement, les morts, tout à coup, sont vivants, ou on ne sait pas si quelqu'un va mourir ou se remarier, etc. J'ai eu le sentiment très vite que je devais employer une langue tout à fait quotidienne et ancrer ça dans des situations très concrètes pour pas qu'on parte non plus complètement sur orbite, en fait. Donc... la langue la plus quotidienne pour moi, c'était le neuchâtelois. J'avais pas envie que... Enfin, je suis arrivée très vite à faire ces ellipses, ces élisions dans la phrase elle-même, parce que j'avais pas envie d'entendre des comédiens qui disent « Attends, je reviens » plutôt que « Je reviens ». Voilà. Mais c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure avec Pascal de quelques coups de fil qu'on a eus au départ du projet. Et ça m'a rassurée aussi de voir qu'elle n'avait pas l'intention d'en faire des tonnes sur cet accent. C'est pas non plus, on n'est pas là pour faire la parodie des Neuchâtelois, quoi, des Jurassiens. Je trouve qu'elle a fait ça avec finesse parce qu'on sent bien que c'est une langue courante, quotidienne, orale, mais elle n'est pas non plus ultra localisée, je trouve. Enfin, elle est pas, on ne s'en moque pas.
Non, on ne s'en moque pas. Pour moi, c'était aussi compliqué de demander à des Vaudois, des Genevois ou des Fribourgeois de prendre un accent neuchâtelois. Donc, on s'en est tenu à des élisions. Et puis, il y a quelques petites expressions charmantes. Voilà, se foutre le tour ou bien se recoiffer la moindre, des petites choses comme ça. Bien du cru.
Pascal Gudel, Antoinette Richner, reste avec nous. On se retrouve après cette chanson de Basse Basse avec Olivia Ruiz, « Si j'avais su ».
Si j'avais su, j'aurais pas venu entre tes bras nus. Si j'avais su, j'aurais pas venu dévorer tout cru ton corps menu. Depuis je dors plus. Si j'avais su, j'aurais je t'ai vu, je me suis perdue, tombée dans la rue. Jour où je t'ai vu, je me suis perdue.
Et j'avais même pas bu, peut-être j'aurais dû. Oh, qui l'eût cru, si j'avais bu, j'aurais pas venu. Et ça,
j'avais su, Basse Basse et Olivia Ruiz. Vous écoutez La Première Vertigo avec Antoine Richner qui signe Arlette de retour à la mi-janvier au Théâtre de Poche à Genève. Une mise en scène de Pascal Gudel. Toutes les deux sont nos invitées jusqu'à 18h. Antoinette Richner au Montre Jazz Festival, job d'étudiante, vous me voyez venir. Job d'étudiante, vous faites les poubelles du festival.
Oui, exactement.
Quand soudain
J'ai eu un coup de cœur pour le métier des coulisses en fait. Je me rappelle que le premier jour, on nous a fait la visite du backstage et j'étais sous le charme. Je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Pas nécessairement les poubelles, mais en tout cas, travailler derrière la scène.
Une fascination pour les coulisses.
Oui, tout à fait. Pour toute la partie invisible, finalement, qui participe à l'objet visible pour le public.
C'est là que vous êtes devenue technicienne du spectacle ?
Oui, à peu près, ouais. J'avais fait une école d'art appliqué à Vevey, et puis après j'ai fait un stage à l'Opéra de Lausanne comme accessoiriste, puis j'ai enchaîné un petit peu dans les différents services, lumière, son, etc.
C'est quoi le job d'accessoiriste à l'Opéra ? C'était quoi votre travail?
Alors, il y avait un super atelier, très bien équipé. On pouvait fabriquer des tas de choses. Et alors, donc, on assiste aux répétitions. Et le metteur en scène, tout d'un coup, il dit, ben là, il faudrait une carafe. Et puis, il faudrait un bouclier. Puis alors, on va chercher dans le grenier si on trouve une carafe. On fabrique vite un bouclier parce qu'on n'en a pas un.
Vous aimez fabriquer, vous, hein?
Oui, j'aime la matière. C'est vrai que parfois, ça me manque un peu. Mais en même temps, je trouve une correspondance dans l'écriture parce que je trouve qu'il y a une résistance, en fait. Quand je fabriquais des objets, je m'énervais parce que ce n'était pas tout de suite ce que j'avais visualisé qui apparaissait dans la matière. Et dans l'écriture, c'est un peu pareil. Je vois mes premières versions, puis ça m'énerve parce que c'est pas tout à fait... Ça ne correspond pas encore à mes intentions. Puis je trouve qu'il faut vaincre un peu cette résistance du texte lui-même, de la phrase elle-même, jusqu'à ce qu'on arrive à en faire ce qu'on veut. Il y a un petit combat.
C'est un bricolage, c'est un assemblage?
Tout à fait.
L'écriture?
Oui, moi je le vis comme ça, d'autant plus avec l'outil informatique qui permet quand même d'aller prélever des éléments, de les intégrer, de bricoler, quoi, je ne peux pas dire autrement. Pour moi, c'est vraiment une matière un peu ductile et organique, comme ça.
En 2006, jusqu'en 2009, vous êtes inscrite et vous travaillez, vous étudiez à l'Institut littéraire de Bienne. Vous faites partie de la toute première volée. Donc là, vous ne savez pas du tout dans quoi vous lancez.
Non.
Vous ne savez pas ce que c'est, finalement.
Non, c'était vraiment un peu l'inconnu, ouais. Et puis, je me suis beaucoup plu durant ces 3 ans à l'Institut littéraire. C'était effectivement la première volée. Donc, je pense qu'au sein du département lui-même, il y avait encore des petites mises au point. Ils découvraient en même temps que les étudiants, finalement, ce qu'on était en train de faire. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu des ateliers avec Antoine Jacou, avec Eugène.
Qui était votre mentor?
Oui, ouais. C'était mon mentor. Ouais. Après, l'Institut, il a fallu un petit temps pour tuer le père, comme on dit. Il a fallu que la voix d'Antoine Jacou sorte de ma tête. Mais j'ai quand même toujours gardé certaines bases qu'il m'a données et qui sont précieuses. Et puis je lui suis reconnaissante.
Ce que vous avez appris aussi, je crois, à l'Institut littéraire, c'était d'écrire, écrire, écrire. On vous demandait d'écrire tout le temps.
Oui, tout le temps. C'est vrai que du coup, ça légitime aussi le fait que l'écriture soit au centre de la vie. Tous les étudiants autour sont dans le même cas. Il y a quelque chose de centré là-dessus. On baigne en fait dans cet exercice d'écriture, même avec plusieurs chantiers en même temps. Ça, c'est aussi utile, je trouve, dans la vie après professionnelle. Quand on a plusieurs commandes, ben, on ne maîtrise pas forcément toujours. Des fois, il y a des délais pour rendre un texte qui tombe en même temps. Ben, pour ne pas paniquer, le fait d'avoir suivi l'Institut, ça m'aide.
Ça, c'est votre quotidien. Vous êtes sollicité, vous avez plein de métiers dans l'écriture différents, que ce soit, l'animation d'ateliers. Vous avez créé des ateliers, il y a des commandes de théâtre, vous avez gagné des bourses. Par ailleurs, vous mettez à écrire un roman qui, par exemple, en 2016, vous gagnez le prix suisse de littérature. Enfin, tout ça, ça a changé beaucoup dans votre vie. Finalement, vous avez très vite réussi à vivre de votre plume.
Alors, vivre de sa plume, c'est comme... est-ce que c'est vous, le personnage principal?
C'est une histoire de cailloux
qui revient très, très souvent. Et je m'en méfie aussi un peu parce qu'elle donne l'impression qu'on vit finalement des droits d'édition. Mais en fait, on est quand même très, très peu d'auteurs vivants à vivre de nos droits d'édition. Je crois qu'il faut le rappeler.
Donc, je crois qu'il y en a 10 en Suisse.
Non, en tout cas, dans l'espace francophone. Mais du coup, oui, c'est un peu... C'est une addition d'activités autour de l'écriture qui me fait vivre, pas nécessairement que la création littéraire.
Est-ce que le prix suisse de littérature, ça a assis quelque chose en vous?
Oui, je pense que ça a un peu calmé une angoisse de reconnaissance. D'autant plus qu'en fait, le roman qui a reçu ce prix parlait d'une quête de reconnaissance. Donc c'était tout un cheminement, déjà d'arriver à écrire et à aboutir et terminer ce livre. Mais qu'en plus il soit reconnu, qu'il reçoive ce prix, qui est quand même le prix suisse, qui n'était pas rien pour moi. Oui, c'était aussi une validation finalement sociale, quoi, de mon métier, de mon rôle. Je passe des jours devant mon ordinateur, des fois sans trop savoir où ça va me mener. Mais là, on me dit, j'avais l'impression qu'on me disait, ben oui, ce que tu fais, ça a une valeur, on la reconnaît aujourd'hui. Et c'était très important pour moi.
Et vous êtes publié? C'est évidemment essentiel pour une auteure. Même en théâtre, vous êtes publié par exemple Arlette, dont
Arlette
on parle aujourd'hui.
Solitaire intempestif.
Solitaire intempestif en France. Ça devient de plus en plus compliqué pour les dramaturges de trouver des maisons d'édition déjà parce qu'elles sont rares et puis sélectives.
Alors,
en théâtre.
Oui, la question pour un texte de théâtre, d'être publié, c'est vrai que c'est compliqué, mais là, je dirais que c'est encore plus compliqué d'être joué, quoi. C'est vrai que soit on. Enfin, contrairement à l'Allemagne, dans l'espace francophone, c'est vraiment le ou la metteur en scène qui est tout puissant. Donc, en tant qu'auteur, soit on publie ou on fait circuler un manuscrit dans les comités de lecture en espérant que ça séduise quelqu'un. Ou alors, on peut travailler aussi dans des écritures de plateau, en s'associant à des collectifs ou en s'associant à des compagnies. Mais là, je dirais qu'on entre quand même dans l'imaginaire ou dans les projets d'un metteur en scène à la base. Et il y a encore une possibilité, c'est d'être soi-même son propre metteur en scène. Mais moi, je ne fais pas de mise en scène. Donc, oui, ça ne m'arrive pas tous les jours d'être jouée. Et ça, je trouve que c'est dommageable, en fait, à l'écriture elle-même, parce que c'est seulement en voyant ces pièces jouées qu'on se rend compte réellement des particularités du plateau, de ce que ça demande, en fait. Par exemple, je trouve qu'on a tendance toujours à oublier, quand on est seul devant son écran, que le texte ne sera pas tout, comme dans un roman, que ce ne sera pas toute l'œuvre. Le texte de théâtre, c'est seulement un élément parmi plein d'autres signes visuels, non-verbaux, sur scène. Donc ça, on a beau le savoir, je trouve que c'est seulement en voyant vraiment la pièce incarnée qu'on réalise pleinement. Et ça, il faudrait être joué très régulièrement pour baigner là-dedans, pour vraiment être au top, en fait, de cette écriture théâtrale qui est spécifique.
Antoinette Richner, Pascal Gudel, vous êtes les invités de Vertigo jusqu'à 18h. On se retrouve après cette chanson mexicaine, signée Lila Downs.
V-E-R-T-I-G-O, Vertigo.
Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir.
Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir.
Vous écoutez Vertigo sur la première avec Antoinette Richner qui signe Arlette de retour à la mi-janvier au Théâtre de Poche à Genève, une mise en scène de Pascal Gudel. Pascal Gudel, vous êtes né à Bâle, vous avez grandi à Velleras, commune de 69 habitants, commune bernoise qui s'est battue pour rejoindre le Jura après les autres. C'était en 1996. Aux autres, je vous montre une photo.
Oui,
regardez cette photo.
Oui, les enfants du village qui courent à l'entrée du village par-dessus un écusson jurassien qui est dessiné à même le bitume. Et on court tous avec des drapeaux, des grands drapeaux jurassiens dans la main.
Et là, c'est vous.
Et là, c'est moi. On dirait que je vole, je ne pose pas pied par terre.
C'est ça le Jura.
Voilà.
C'est une très belle photo. Cette enfant-là, elle pensait déjà au théâtre ?
Oui, cette enfant-là, elle faisait du théâtre avec Germain Meyer à l'école secondaire à Courandelin. Et puis, elle a continué à faire du théâtre au lycée à Porrentruy qui propose encore et toujours depuis 1993, sauf erreur, la seule Mathieu Théâtre de Suisse romande.
C'est une grande chance, ça.
C'est une grande chance, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Et donc là, pendant ces années à Porrentruy, se dessinait l'envie déjà d'une carrière, de vivre, enfin, de vivre de ça, pardonnez-moi encore une fois, mais de vous jeter complètement dans cette voie.
Alors, pas du tout, non. Surtout dans un canton où une personne sur deux fait du théâtre en amateur, c'est compliqué de dire « je veux vivre de ce métier-là ». On ne comprend pas très bien. Encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on me demande ce que je fais, si je retourne dans le Jura et que je dis que je fais du théâtre, on me dit « ah tiens, ma cousine aussi, d'ailleurs tu l'as vue, elle a joué dans la troupe de Rebevelier à Noël dernier enfin, ». Voilà, donc c'est... Non, c'est la question de la reconnaissance, c'est aussi tout un thème, tout un monde.
Vous avez étudié à la SPAD, l'ancêtre de la Manuf à Lausanne. C'était une suite logique pour vous ?
Là encore, pas tout à fait, non, mais je crois que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Donc je m'étais inscrite à l'université en lettres au cas où je ne passerais pas le concours pour entrer à la SPAD. Et même, je dois dire qu'en sortant du lycée, j'ai fait une année de stage dans différents théâtres. Là aussi, pour moi... le théâtre comme quelque chose de collectif, de bricolé. Je me sens plus artisane qu'artiste.
Vous avez ça en commun, hein, toutes les deux.
Mm-hmm. Ouais, j'ai fait aussi un stage de lumière, d'éclairagiste d'ailleurs.
Ah, voilà.
Je t'avais jamais dit ça. Voilà, donc la SPAD, c'était après cette année où j'ai pu toucher à toutes sortes de métiers du théâtre. Et voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir entrer du premier coup dans une école, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui quand j'entends parler les jeunes qui essayent plusieurs concours dans plusieurs écoles à travers la francophonie. Mmh. Voilà.
Vous êtes une comédienne bilingue, ça c'est très rare.
Oui, bilingue, c'est un grand mot, mais...
Si, bilingue, je l'ai vu jouer, je le certifie.
Oui, alors à Bienne, il y a une compagnie de théâtre jeune public avec laquelle je travaille depuis 8 ou 8-10 ans bientôt. Et les spectacles sont créés en français et en allemand. Il y a parfois même des versions trilingues, bilingues, trilingues, voilà.
Ça, c'est pour ça que vous vous sentez si bien à Bienne ? C'est parce que c'est parce que vous y vivez depuis quelque chose comme 10 ans, j'imagine ?
Oui, un peu moins, depuis 2010.
Et c'est une ville qui vous ressemble à ce niveau-là ?
Oui, moi je dis souvent que j'ai les deux pieds dans le Rochtigraben, ou en tout cas un des deux. Une partie de ma famille est suisse-allemande, mon compagnon est suisse-allemand. Ça fait clairement partie de moi. Et cette langue, je l'ai dans l'oreille parce qu'il y a ces 5 premières années à Bâle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était pas la mode que les parents parlent dans une autre langue avec leurs enfants. Donc mes parents, jurassiens vivant à Bâle, m'ont parlé en français. Mon papa disait « ma fille ne deviendra pas une petite Suisse allemande ». Il a un petit peu raté son coup. À part ça, il travaillait à Bâle, il est lui-même bilingue.
Théâtre bilingue en Suisse, ça existe ?
Ça existe, oui. Évidemment, maintenant j'ai le nom de la compagnie qui m'échappe, mais... parce que je pourrais tout de suite parler de la mienne, Fract, basée à Bienne, mais il en existe une autre qui ne travaille plus maintenant. Donc ce n'est pas tout à fait une nouveauté, mais bon, maintenant, cette compagnie-là, elle est en stand-by parce que mes deux collègues germanophones vivent en Hongrie. Donc, voilà.
Ça complique les affaires.
C'est un petit peu plus compliqué. Ouais. On peut faire des spectacles par Skype, c'est possible.
Hein. Mais il y a un marché pour le théâtre bilingue ?
Je dirais que les Suisses allemands sont plus ouverts. J'ai eu beaucoup de peine à vendre ces spectacles bilingues en Suisse romande, alors même que les spectacles étaient faits pour un public qui n'est pas bilingue. C'était simplement, on amenait ces deux cultures-là sur le plateau, et puis dramaturgiquement, ça faisait du sens dans l'histoire qu'on racontait, qui est différentes langues sur le plateau.
C'est dingue, non ? Pour en parler autour de cette table, je sais que Michel Masseret est très sensible à ces questions-là. Quoi, comme il est difficile dans notre propre pays artistiquement de circuler.
Ça dépend peut-être malgré tout des disciplines. Hein. Je pense que dans
la musique, c'est plus simple.
La musique, c'est plus facile, peut-être parce qu'il n'y a pas toujours le mot, même si une bonne partie de la musique est chantée.
On connaît quand même assez peu de chanteurs suisse-allemands en Suisse romande.
Quand même, Michael von der Heide, Stefan Eicher.
Bon, ils chantent aussi en français, en anglais.
Voilà, c'est que très vite, ils font l'effort de partager en fait, la langue.
Et même en littérature. Les Suisses allemands sont tournés vers l'Allemagne et les Suisses romands plutôt vers la France. C'est difficile, à part peut-être un Alex Capu ou un Martin Suter, on connaît très peu d'écrivains suisses allemands.
Et vous avez certainement aussi déjà côtoyé un Suisse allemand et un Suisse romand qui ensemble finissent par parler en anglais.
Oui. D'ailleurs, vous parlez anglais, vous aussi.
Très peu. Just a little bit.
Vous aimez varier non seulement les langues, Pascal Gudel, mais aussi les genres, les disciplines, les publics, chant, danse, marionnette. Vous avez appris tout ça sur le tas ?
Oui, absolument. La marionnette, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'ai eu l'occasion de l'apprendre en répétant un spectacle au théâtre de marionnettes de Genève qui proposait 10 semaines de répétition. Autant dire que c'est une sorte de stage. Et là aussi, dans la manière de travailler, c'était très agréable parce que chaque comédien a essayé les marionnettes de tout un chacun. Pour les voir de l'extérieur, c'est intéressant de voir comment peut bouger une marionnette. Elle a son langage propre, mais parfois, on n'en découvre pas toutes les possibilités. Et voilà, dans les mains de quelqu'un d'autre, on voit des choses qu'on n'aurait pas pensé à faire.
C'est un art aussi, celui de la marionnette. Oui. Il y a beaucoup de voix aussi que vous aimez explorer. D'ailleurs, je parle de voix, votre propre voix. Vous vous intéressez beaucoup à cet instrument-là, qui est fondamental pour un comédien. Vous êtes aussi comédienne.
Oui, je suis avant tout comédienne, effectivement. Oui, la voix, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait 3 ans que je suis une formation de théâtre Roy Hart. C'est une méthode où on va chercher sa propre voix, on va explorer toutes les facettes de sa voix. Et là, je fais un travail d'enlever un petit peu les couches, d'arriver à quelque chose de très pur, et je peux le réutiliser dans ma pratique de comédienne. Mais là, je sens d'ailleurs, au micro, avec le stress, que ma voix est un peu fermée.
Elle est super, votre voix. Bougez pas. Enfin, laissez-la tranquille quelques minutes. Je vous propose de partir à Paris quelques heures en TGV. Voilà, comme on le disait, c'est le temps d'écrire une pièce ou d'y penser. Et rendons-nous à la Cité de la Musique, découvrir une toute nouvelle exposition.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver.
Cette fin d'année est placée sous le signe d'Étienne Dao. Après la sortie d'un nouvel album, le chanteur français s'illustre actuellement en tant que commissaire d'une exposition consacrée à la pop française intitulée Dao l'aime pop. Michel Masseret, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez visité cette exposition organisée jusqu'au 29 avril à la Cité de la Musique à Paris. Pourquoi les organisateurs ont-ils confié la clé à Étienne Dao ?
Ben, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Dao incarne à la perfection le concept même de la pop française, une sorte de précipité effervescent de chansons et de pop à l'anglaise. À cela s'ajoute le fait qu'il a toujours été très respectueux à la fois de la tradition, tout en inspirant profondément les nouvelles générations. Il a fait des duos avec Dany, Françoise Hardy, il a produit Brigitte Fontaine et il collabore aussi avec des jeunes artistes électro comme Flavien Berger, Calypso Valois ou Yann Wagner. Ce large spectre de relations et de connaissances faisait un parfait guide à travers l'histoire de la pop française.
Et comment est construite, elle ressemble à quoi cette exposition ?
Bien, en fait, il s'agit d'une balade audiovisuelle à travers 60 ans d'histoire. Tristan Béra, co-commissaire de l'expo, nous révèle sa conception.
Si vous voulez, l'exposition, elle est divisée en 4 parties. Il y a une galerie historique qui va de 1950 à nos jours, un vidéodrome, une salle des clips, un jukebox baby, dont l'appellation rappelle Alan Vega. Donc nous, on n'a pas peur de citer les étrangers.
Une référence d'ailleurs pour Étienne Dao, Alan Vega.
Alan Vega, grande référence pour Étienne. Et le Vidéodrome, c'est une référence à David Cronenberg, dans lequel joue Debbie Harry de Blondie. Et la dernière salle, le Dao Lab, donc c'est quelque chose de plus expérimental. C'est pour ça qu'on l'a appelé laboratoire. Donc l'accrochage est très différent, c'est sur des tables. C'est comme si en fait on était dans l'atelier, dans une sorte de fabrique dirigée par Dao. Et c'est Dao lui-même qui, en 2014 et 2016, a fait 2 campagnes photos et a demandé à des jeunes artistes en fait, de poser devant son objectif.
Donc vous parlez, Michel Masseret, d'une balade audiovisuelle. Très concrètement, quoi, on a un casque sur nous, comment ça se passe ?
Oui, en fait, on déambule dans l'espace et c'est la voix d'Étienne Dao qui commente ce parcours à travers 4 grandes périodes de la pop, entre 1950 et aujourd'hui.
1972 est l'année Véronique Sanson. Seule au piano, à la manière d'une Carole King, elle chante ses compositions avec cet étrange vibrato qui la rend si singulière.
Une nuit, je m'endors avec lui.
À 23 ans, amoureuse, son parfait premier album fait l'effet d'une bombe. Réalisé par Michel Berger, jeune producteur qui réussit à mélanger la pop et le classique, cet album sonne comme aucun autre auparavant.
En fait, ce qui est étonnant, c'est que la pop, c'est par vagues successives. Et la pop a d'abord été dans le feu de l'actualité et de plus en plus, elle s'est marginalisée. Là, par exemple, on peut imaginer que c'est bien le rap tuné qui est la pop d'aujourd'hui. Mais la pop rock, en fait, l'appellation sobrement intitulée par l'industrie du disque, est beaucoup plus marginale que cela a été au début des années 90 ou carrément au moment de l'émergence de DAO dans les années 80. Et en fait, aujourd'hui, il y a un vrai retour, une vraie scène, et particulièrement en France, une pop très dynamique. Et je pense qu'au-delà de même de ce dynamisme, la France n'a pas tellement pris conscience de la richesse visuelle aussi de son histoire, de l'histoire de la pop. Et ça paraissait une nécessité de tracer cette histoire, d'ouvrir le livre de cette histoire.
Après avoir été les fers de lance de la pop légère pendant la seconde moitié des années 60, Gérard Manset, Nino Ferrer et Christophe amorcent une belle métamorphose artistique. Maturité, musique ambitieuse, dimension nouvelle, ils se réinventent. Christophe nous laisse bouche bée avec le magnifique diptyque « Les paradis perdus et les mots bleus » dont les textes sont écrits par un jeune parolier, Jean-Michel Jarre.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
On a l'impression que la France, longtemps, n'a pas reconnu sa scène pop comme l'Angleterre l'a fait.
Comme vous savez, la France a un régime culturel qui est très spécifique, qui est un peu protectionniste, et peut-être les idées venues d'ailleurs n'ont pas le même rayonnement que les idées qui sont nées ici. Et en fait, la pop n'est pas née en France. La pop, c'est une idée importée des États-Unis, de l'Angleterre. C'est une attitude rafraîchissante, moderne, cool, qui en fait a défrisé dans les années 50 la chanson réaliste ou la chanson rive gauche. Donc en France, il y a une tradition de chansons. C'est vraiment par les yéyés que la pop gagne les charts français. Mais le phénomène, en fait, n'est pas du tout national. En fait, c'est un phénomène international qui est adapté au sol français. D'ailleurs, les puristes dans l'histoire de la musique ont du mal à accepter l'appellation pop française. Et d'ailleurs, on a longtemps, pour l'exposition avec Étienne, souvent on parlait de la pop en disant « French pop ». Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais French pop, c'est l'expression, elle est venue d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est les Anglais ou les Américains qui ont identifié le mouvement musical comme de la French pop. Mais aujourd'hui, en fait, c'est peut-être la première fois qu'on entend pop française. Et on a voulu vraiment franciser l'appellation, en fait, donner enfin un regard d'ici sur un phénomène d'ici, mais né ailleurs.
Acteur et musicien, Kavinsky se fait rapidement remarquer grâce à ses sonorités très typées 80. En 2010, il s'associe avec Guy Manuel des Daft Punk pour produire le maxi Night Call. La chanson, utilisée dans la bande-son du film américain Drive, devient aussitôt un hit international.
L'idée, à travers cette expo, c'est aussi de permettre à un public de redécouvrir des artistes qui n'ont peut-être pas eu leur chance.
Totalement. Moi, je pense à plein d'artistes comme Dashiell Hedayat, qui est un artiste en blouson de cuir, une sorte de Fassbinder de la chanson française, que je suis sûr très peu de gens connaissent.
Chrysler. Chrysler Rose.
En fait, c'est un savant mélange entre des chansons que tout le monde peut connaître, mais qu'on remet en perspective, et aussi des chansons ou des univers moins connus et sur lesquels on voulait mettre de la lumière. Au vernissage, j'ai parlé avec une musicienne qui est aussi DJ, qui m'a dit « j'ai appris plein de trucs ». Et pour nous, ça, c'est le plus beau compliment.
L'exposition DAO L'M-Pop est organisée jusqu'au 29 avril 2018 à la Cité de la Musique à Paris. Et parmi les artistes photographiés par Étienne DAO, Calypso, Valois, Michel Masseret.
Oui, c'est la fille d'Elie Medeiros et de Jacquenot, deux figures de la pop française, précurseurs du punk à la française avant de devenir un duo électropop culte.
On va l'écouter d'ailleurs dans Apprivoiser, extrait de son premier album Cannibal, sorti cette année.
We'll be right back. chair de respirer.
Apprivoiser, Calypso Valois, que l'on peut voir photographié dans l'exposition Dao L'Empop, c'est à voir à la Cité de la Musique jusqu'à fin avril. Nos invités sont Antoinette Richner qui signe Arlette, de retour à la mi-janvier au Théâtre de Poche à Genève, une mise en scène de Pascal Gudol. Tous deux sont là, prêtes à nous lire un extrait de cette pièce qui s'appelle Arlette. On vous écoute.
Ben merci. Me lâcher sur ce coup-là. Je sais pas comment je vais expliquer que tu sois pas venue.
De toute façon, je suis morte.
T'es pas plus morte que moi?
Mais si, je suis morte. C'est ce que tu pensais avant de passer cette porte, non?
Puis, comme Arlette un peu embarrassée, voire prise en faute, marque une nouvelle hésitation.
Tu vois? Salue-les de ma part, hein? Tu les salues tous. Je les embrasse. Ah, puis fais gaffe à un truc. La fiancée de papa, la regarde pas trop. Quand les gens sont beaux, quand ils sont charmants et beaux, alors on les fixe sans se rendre compte. On les bouffe des yeux et pendant ce temps, on se couvre de ridicule sans même s'en rendre compte. Fais gaffe à ça.
T'es qu'une lâcheuse.
Quoiqu'aujourd'hui, une mariée, on a le droit de la regarder. Ça se fait.
Tu fais chier.
Contente de t'avoir revue.
Toutes deux hésitent, puis se prennent dans les bras, se serrent. Un petit coup qui dure, puis Arlette s'arrache. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pièce de théâtre, hein? C'était bien. Ça se passe à la mi-janvier au Théâtre de Poche avec Pascal Gudel à la mise en scène et un texte signé Antoinette Richner. Antoinette Richner, cet exercice-là de vous lire à voix haute, j'imagine que ça fait partie de votre quotidien d'écrivaine.
Oui, alors je le fais pas forcément toujours quand je suis toute seule, mais j'ai du plaisir à le faire avec une deuxième voix. C'est toujours une manière même rudimentaire de faire vivre la scène.
Et là, on est dans la réalité la plus complète, surtout dans votre texte, dans votre langue, et dans le climat que ce texte impose, très onirique, on en parlait. C'est comme un rêve, cette Arlette. Quand on lit ce texte, quand on voit ce texte, on a l'impression d'être englué dans un rêve, on se réveille, on doit aller d'un point A à un point B. Ça, tout le monde connaît cette sensation et on n'y arrive pas. Il y a toujours des choses qui nous arrêtent. Il y a d'un coup une apparition, une disparition.
Oui, c'est vrai qu'il y a l'effet cauchemar, en fait, d'avoir un but, une mission, un objectif et de ne pas y arriver. Toute la pièce est construite comme ça, c'est-à-dire que chaque personnage qui intervient est comme un obstacle, en fait, qui va freiner Arlette.
Dans son envie de s'élever, de devenir un petit peu plus humaine, toute l'histoire se passe dans un immeuble. Donc là aussi, on est dans quelque chose de l'ordre du symbole. La maison dans le rêve, c'est souvent, ça représente l'humain, notre intérieur, notre inconscient. Donc là, elle doit entrer dans cet immeuble en brisant une vitre, entrer par effraction. Donc il y a vraiment cette volonté de se dépasser. Et puis, on ne va pas spoiler évidemment toute l'histoire, mais elle passe de pièce en pièce de manière complètement surréaliste pour terminer sur le toit de l'immeuble.
Une pièce qui regorge, vous le dites dans votre note d'attention, Pascal Gudel, de références symboliques, psychanalytiques, oniriques, mythologiques, mais vous ne teniez pas à le souligner plus que ça dans votre mise en scène.
Dans le sens où c'est très très fort. Après, ce n'est pas tout à fait vrai, ça c'est un texte que j'ai écrit au mois d'avril.
C'était avant.
Voilà, c'était avant. Donc on sait tout de même... On s'est tout de même amusé. Il y a un élément qui est pas simple à mettre en scène, c'est le fait que des personnages se transforment en d'autres personnages en enlevant un masque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait très envie de faire au cinéma, par exemple, ou si on avait un peu plus de temps au théâtre aussi. Mais voilà, donc ça, c'est typiquement des endroits où le rêve, la mythologie apparaissent. Le père qui la mariée qui se transforme en père et qui ont le même costume. Comme ça, il y a quelque chose de très flamboyant et kitsch. On s'est amusé de ça.
Pascal Gudel, Antoinette Richner, c'est la fin de cette émission. Grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'Arlette reprend du 14 au 28 janvier au Théâtre de Poche à Genève dans le cadre de Sloop.
Pour 5 représentations.
5 représentations, donc rendez-vous sur le site internet pour réserver vos billets, ce sera plus simple. On fait comme ça, belle soirée.
Merci, au revoir.